Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Tout pour investir, le coach.
15%. 15% de rentabilité, c'est peut-être ce qu'on vous promet dans cette séquence. Bonjour Jonathan Glove.
J'adore promettre des investissements. Bonjour Lorraine.
Attention, tout investissement comporte du risque, y compris quand on met des billes dans une cave, un box ou un espace de stockage. C'est l'objet de cette séquence. On va réfléchir si c'est le bon moment d'investir dans ce genre d'espace limité, généralement obscur. En France, Jonathan, vous êtes à la tête d'Aguesso Capital et d'Aircall. Vous allez nous expliquer ce que vous pensez de ces opportunités d'investissement.
Écoutez, oui, c'est assez intéressant parce qu'on a un petit peu oublié durant pas mal d'années les caves, enfin le stockage en général. On a beaucoup pensé au parking, hein, on le montre juste là. On a aussi également beaucoup pensé aux caves classiques, mais on oublie qu'aujourd'hui, de plus en plus, les personnes, que ce soit dans les grandes villes ou dans les plus petites villes, déménagent souvent, ont des plus petits appartements. Historiquement, les appartements qu'on construisait en 1930 étaient bien plus grands que les appartements qu'on construit aujourd'hui. Pourtant, finalement, on a toujours autant de choses auxquelles on tient. Et donc, finalement, il y a un énorme regain récemment, depuis 2-3 ans, surtout après le Covid, d'avoir sa box de stockage, pas spécialement avoir une grande cave, de pas pouvoir, notamment dans les immeubles haussmanniens classiques, où les caves sont en terre et la moindre chose qu'on met risque de pourrir. Eh bien, il y a un vrai regain pour le stockage. Et c'est intéressant parce que c'est un business qui, à l'origine, était opéré par des vrais opérateurs du stockage, donc des personnes qui créent un business pour stocker. On peut penser à une pièce en U, une pièce en plus, à un co-stockage.
On pense à ces gros espaces de stockage un peu excentrés.
Exactement. Voilà, qu'on voyait. Et récemment, il y a vraiment des investisseurs immobiliers qui commencent à s'y intéresser.
Vous voulez dire que ça s'institutionnalise?
Ça s'institutionnalise, exactement. Quel mot difficile. Oui, ça s'institutionnalise, et notamment Ardian, qui est un énorme asset manager dans le monde, qui vient de racheter Co-Stockage, justement avec cette vision de dire « aujourd'hui, le monde a besoin de stocker, et pour stocker, quoi de mieux qu'un espace de stockage, même s'il n'est pas au pied de son immeuble, parce qu'on l'a décrit avant, c'est pas toujours on n'a pas toujours la bonne solution au pied de son immeuble, parce que si on a un parking, on a peut-être une voiture, et si on a une cave, elle est peut-être humide, et donc on peut pas stocker ce qu'on aimerait.
Ou pour ceux qui écoutent Tout pour investir régulièrement, occupés par du vin.
Ou voilà. Par exemple. Et donc, ce qui est intéressant dans le stockage, donc il y a deux manières d'investir dans le stockage. Ça peut être acheter des box, des box de parking classiques, et au lieu de les louer à des voitures, on peut mettre du stockage. Ou alors directement de créer son propre, d'acheter, on va dire par exemple, un grand plateau d'anciens parkings inoccupés, pas très loin, soit d'une grande zone d'activité ou d'une grande ville ou proche d'un endroit d'habitation, et de créer son propre lieu de co-stockage.
Et l'opérer à petite échelle.
La bonne nouvelle, c'est que vu que c'est du stockage, ça nécessite très très peu d'investissement, contrairement à la location classique immobilier où dès qu'on a un locataire, à la sortie de ce locataire, on peut avoir des problématiques de travaux, on peut avoir des problématiques d'impayés sur de la location classique, et c'est compliqué. Dans le stockage, si la personne ne paye pas, on peut très facilement
la déstocker.
Voilà, on l'a dit. On a très peu de travaux, très peu de charges, parce qu'en général, soit on est dans un immeuble et on paye un quotient de charges très faible, vu qu'en général c'est dans des sous-sols.
Ouais.
Et si c'est notre propre lieu de stockage, je prends un exemple d'un acteur qui a récemment acheté pour un peu moins de 500 000 euros, donc c'est pas une énorme somme, je ne veux pas dire de bêtises, 3000 mètres carrés de stockage en proche banlieue. Et l'a transformé en petit box. Il a investi 250 000 euros pour faire ses petits box. Donc ça fait à peu près 750 000 euros d'investissement total. Et tout ça lui rapporte aujourd'hui un peu plus de 150 000 euros par an en louant chaque box individuellement. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant. Alors il y a quelques pièges à éviter. Attention, L'emplacement est primordial. Vous pouvez imaginer que lorsqu'on stocke du matériel auquel on tient à première vue, vu qu'on est prêt à payer pour ça, la zone de chalandise maximale est vraiment de 10 km. Donc en ville, elle va être plutôt de 1,5 km. Donc 10 km en province. La sécurité, ça va être primordial. Il y a quelque chose d'assez intéressant là-dessus qu'il faut savoir, c'est que si on crée son propre système de stockage, donc c'est vraiment ce qu'on appelle du self-stockage, c'est-à-dire que on fournit la partie immobilière entre guillemets, on est responsable.
Il y a des systèmes d'accès et puis c'est tout.
Il y a des systèmes d'accès et un peu de sécurité, il faut donc prévoir des portes blindées, prévoir des caméras de surveillance, etc. pour vraiment rassurer, et c'est ce qui va aussi faire en sorte que vous allez vous démarquer de la concurrence et dire mes box sont sécurisées, je suis capable de vous offrir un produit où vous pouvez stocker des choses de valeur sans vous inquiéter, quoi.
Mais si je reprends votre exemple, Jonathan, on est vraiment dans l'investissement, on choisit d'acheter un plateau, de l'opérer. Comment on distingue les locataires en B2B et en B2C? Je veux dire, assurer des pros versus assurer des particuliers, c'est pas les mêmes enjeux de sécurité.
Alors tout dépend ce que vous allez stocker. Là, je parle vraiment de stockage traditionnel. Hein. On va éviter de stocker de l'hydrogène ou des choses comme ça. Hein. Il y a des stockeurs.
C'est encore un autre business.
Ouais, c'est un autre business, mais ça existe et c'est un business très rentable parce que du coup, c'est des espaces particuliers. Mais en tout cas, que ça soit pour du B2B ou du B2C, la demande est extrêmement élevé, et un B2B, si on prend l'exemple d'une boîte, par exemple les notaires sont des grands clients du stockage parce qu'ils doivent garder beaucoup de paperasse durant la vie de leur étude, et ils adorent stocker, donc c'est du papier, donc il faut que ça soit sec, il faut surtout pas qu'il y ait d'humidité, etc. Et la beauté de ce business, qui est un des rares business dans l'immobilier qui a encore cette capacité à avoir une fixation du loyer libre, donc ça veut dire que si votre stockage a des avantages que d'autres n'ont pas et que vous êtes capable d'offrir quelque chose d'unique sur votre marché.
On a un beau pricing power.
Et il y a une demande qui est vraiment très élevée actuellement. Pour la petite histoire, sur les 10 dernières années, le nombre, et je parle en volume là, a triplé, le nombre de structures de stockage a triplé. Alors je parle en centre, on ne parle pas en petit stockage individuel.
En nombre de mètres carrés, on peut estimer que ça a triplé.
Ouais, ça a presque triplé, ouais.
Une box, un petit espace de stockage urbain, on va dire, à proximité des lieux d'habitation, ça se trouve à partir de quel prix ?
La grande question. Alors,
j'imagine qu'entre Paris et les grandes villes, et je veux dire des plus petites villes, c'est incomparable.
C'est incomparable, en effet. Et les prix, du coup, à la sortie, de location, sont également incomparables. Donc, un box, ce qu'on appelle un box, fait en général 10 mètres carrés environ, ce qui est à peu près la taille d'une place de parking en général, mais c'est à peu près 10 mètres carrés. En province, alors on va essayer de tout diviser, en province, ça peut aller de 5 000 à 10 000 euros. En banlieue proche, on va dire Île-de-France, ça va être entre 5 et 20 000 euros, selon est-ce qu'on est proche d'une grande ville, est-ce qu'il y a de la concurrence autour, etc. Et à Paris, ça peut monter très vite, autour de 30 à 40 000 euros dans l'hypercentre de Paris. Ouais. À titre d'exemple, co-stockage a récemment, donc comme je disais,
été vendu par Ardian.
Récemment par Ardian. Le prix moyen des box était autour de 25 000 euros quand même.
Ouais, donc on est comparable à une place de parking dans Paris. On est sur un.
Sauf que ça se loue mieux en général qu'une place de parking, et ça a moins de problèmes qu'une place de parking peut avoir.
Pardon, petit Paris, mais j'imagine qu'avec tous les travaux de rénovation énergétique qui sont prévisibles, ou qui sont en tout cas nécessaires dans les prochaines années, finalement, miser sur ces espaces de stockage, c'est pas mal, parce qu'on va bien avoir besoin de vider des appartements pour les refaire, il va bien falloir stocker les choses.
Et oui. Et en plus, on déménage plus que jamais actuellement en France. Hein. Je crois qu'on reste en moyenne moins de 5 ans dans son logement actuellement. C'est une statistique versus plus de 10 ans il y a une quinzaine d'années. Donc la statistique est assez intéressante, et donc ça prouve que les gens ont un besoin parfois court terme de stocker, mais également parfois long terme. Et la beauté de ce business, que moi j'affectionne tout particulièrement maintenant depuis quelques mois, et d'ailleurs à Gesso Capital on s'intéresse fortement à ce business, et on est en train d'acheter un premier lieu, c'est que contrairement à l'ensemble des autres business dans l'immobilier, enfin l'ensemble des autres possibilités d'achat dans l'immobilier, très peu de travaux, très peu d'entretien. Ça s'opère globalement assez automatiquement. Un code d'accès pour rentrer ou un badge, et le reste se passe tout seul. Et en plus, les personnes, en général, quand ils prennent un stockage, ils y font attention parce qu'ils y mettent des choses de valeur en général, des objets de valeur. Et lorsque vous le récupérez, en général, il est en aussi bon état que lorsque vous l'avez laissé, contrairement à la plupart des autres biens immobiliers.
Voilà. Alors, quelle est l'aide à la décision ultime pour savoir s'il faut rester locataire ou s'il faut investir dans ce genre d'espace de stockage, pour conclure, Jonathan ?
La rentabilité, évidemment. Il faut chercher la rentabilité quand on fait de l'immobilier, c'est super important. Il faut traiter ce business comme de l'immobilier maintenant. Comme il y a 10-15 ans, je me souviens, au début finalement de Airbnb, où beaucoup étaient dubitatifs, et notamment les banques étaient dubitatives du fait que un jour, la location saisonnière allait s'institutionnaliser et que ça allait devenir vraiment un investissement à part entière. Et moi, je m'en souviens au début, lorsque j'achetais mes premiers appartements et que je les mettais en location saisonnière, où les banques disaient « mais ça nous va pas ». Eh bien, c'est un peu la même chose avec le self-stockage. Depuis 2-3 ans, ça s'institutionnalise. Il y a des vrais rendements à aller chercher. Et je pense qu'il faut au moins chercher du 10% sur ce genre d'investissement.
Voilà, la perspective de rendement, on a commencé avec 15, on finit sur 10. Ça reste quand même intéressant pour l'immobilier.
15%, c'est ce qu'on peut prétendre. 10%, c'est ce qu'il faut attendre.
Voilà, l'analyse de Jonathan Englove aux manettes d'Aguesso Capital et d'Aircall avec nous sur investir dans une cave, dans une box, dans le self-storage, comme on dit en bon franglais. Est-ce que c'est une bonne idée ? Cette séquence est à retrouver en podcast ou en replay sur la plateforme et le site BFM Business. N'hésitez pas à aller la visionner à nouveau si vous êtes arrivé en cours de route.